Père Philippe, métaphysique à Fribourg, le 4 janvier, deuxième cours.
Comme je vous le disais tout à l'heure, après la grande interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», nous passons tout de suite à l'interrogation « en vue de quoi ?», ce qui n'est du reste pas commode à bien saisir. Nous laissons tomber « en quoi ?» et « d'où ?». Et j'espère que vous comprenez bien pourquoi. Parce que ces deux interrogations impliquent quelque chose de potentiel, impliquent un certain devenir. C'est tout à fait normal, hein? N'oublions pas que le pli de notre intelligence, donc ce qui correspond à ces interrogations d'intelligence, si on essaie de comprendre comment l'intelligence interroge-t-elle. C'est quand même intéressant de se poser la question. Ça, c'est une question d'ordre critique. Hein. Comment l'intelligence interroge-t-elle? Pourquoi interroge-t-elle? Je constate qu'un enfant interroge et un vieillard interroge encore. N'est-ce pas? Et qu'un homme intelligent qui veut progresser interroge. Se poser question. Alors, d'où vient cela? Bien, je crois que ce sont les plis très fondamentaux de l'intelligence par rapport à l'expérience. Notre expérience première, c'est l'expérience à l'égard du travail, à l'égard de l'amour d'amitié, à l'égard de ce qui est mu. Et c'est pour ça que nos interrogations impliquent de fait ces 5 ou ces 6 plis de l'intelligence. Cherchez bien, vous n'en trouverez pas beaucoup plus. C'est intéressant du reste, hein, si vous en trouvez, vous pouvez faire une thèse là-dessus, ce sera remarquable, n'est-ce pas, de voir quelles sont les nouvelles interrogations qu'on n'a encore jamais posées. C'est pas commode. Alors évidemment, il faut faire une petite topic historique pour voir que ça n'a encore jamais été posé. C'est intéressant de se poser la question, parce que c'est quelque chose de très radical. Ce qu'est l'hypothèse dans le domaine scientifique, l'interrogation l'est dans le domaine philosophique. Donc l'intelligence qui interroge est une intelligence qui veut avancer. De fait, c'est pas parce qu'Aristote le dit, mais que Aristote a posé ces 6 interrogations et on les a répétées. Et on n'en a pas trouvé depuis. Qu'est-ce? En quoi? D'où? En vue de quoi? Sur le modèle de quoi? Comment? Alors, ces interrogations proviennent d'une analyse que nous faisons par rapport à la réalité qui est mue. La réalité qui est mue, c'est celle qui est le plus proche de nous, celle qui est en plus en connaturalité avec notre intelligence humaine. Notre intelligence est une intelligence qui devient, qui progresse. Nous devenons intelligents. C'est toujours très important au début de l'année de se dire ça. N'est-ce pas? Nous devenons intelligents, parce que ça donne un peu d'espérance. C'est à la fin de l'année, on sera un peu plus intelligent. Nous devenons intelligents. C'est-à-dire que si on vous disait dès le point de départ, fini, barème, à 15 ans, terminé, plus de croissance. Et donc, vous ne devez plus qu'exploiter ce que vous avez déjà. Ce serait lamentable. Hein? Tandis que si on sait qu'on peut toujours progresser et devenir toujours plus intelligent, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et c'est pour ça que Socrate prend la méthode de l'ironie pour montrer que vous ne savez pas. C'est pour ça que Socrate est ironique. Alors, avec une extraordinaire gentillesse et délicatesse, il montre que vous ne savez rien. Bon. Et parce que vous ne savez rien, c'est pour augmenter en vous le désir de connaître. Parce que si on savait tout, on n'interrogerait plus. C'est pour ça que Merleau-Ponty dit « l'idéaliste n'interroge plus ». C'est une de ces paroles extrêmement intéressantes de Merleau-Ponty. L'idéaliste, ça prouve qu'il est sorti de l'idéaliste quand il dit ça. Et qu'il a compris que toute la philosophie commençait par l'interrogation et qu'il fallait revenir toujours à l'interrogation. Et c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il cherche ce que c'est que l'être sauvage. L'être au-delà de la culture. L'être qui n'est pas habillé par nos concepts. Parce que l'être qui est habillé par nos concepts, c'est un être qui n'a aucun intérêt, vous comprenez bien. On ne voit que son habit, on ne voit que nos concepts. Ce qui est intéressant, c'est de saisir l'être sauvage, l'être qui est à la racine de tout. C'est-à-dire ceux qui, justement, ceux qui déterminent notre intelligence, ce à partir de quoi nous connaissons. Alors, si vraiment la réalité en mouvement, en devenir, est ce qu'est de plus comme naturel à notre connaissance, nous comprenons que, en effet, quand nous sommes en face d'une réalité qui est en mouvement, on se pose ces diverses interrogations. Qu'est-ce? En quoi? D'où? En vue de quoi? Sur le modèle de quoi? Et comment? Ça, il faut le savoir. Il faut apprendre ces petites questions-là. C'est intéressant, du reste. Il faut les apprendre et puis il faut comprendre un peu ce que ça signifie. Et puis essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et vous-même, vous l'appliquez. Quand vous devez faire une petite dissertation, vous savez, c'est un très bon moyen. Parce que si quelquefois vous ne voyez pas très bien, alors vous commencez à vous poser ces diverses questions. Alors ça remue le terrain, c'est une bonne charrue qui remue. Et vous voyez toutes les choses qui peuvent sortir de là. Qu'est-ce? En quoi? D'où? En vue de quoi? Sur le modèle de quoi? Comment? Or, quand j'entre en philosophie première, je sais que ce que je considère est au-delà du devenir. C'est ce qui est en tant qu'être. Je me pose tout de suite la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Et je découvre progressivement que l'être est au-delà de toutes les déterminations, mais que toutes les déterminations sont des modes de l'être. Et donc que l'être, dans ce qu'il a de premier, doit être source de toutes ces déterminations. Il doit être arché. Principe de toutes ces déterminations, ce qu'on a appelé l'ousia. Peu importe le nom, ça m'est égal. Le tout, c'est de comprendre que c'est vrai, que toutes les réalités que je vois autour de moi se donnent à moi en fonction de leur détermination. Le fameux problème des catégories. Le langage est là qui me montre que, de fait, le langage implique des déterminations, implique des orientations. J'indique, ceci est cela. Mon langage montre qu'il y a des déterminations et que j'essaie de saisir ce qu'il y a de principal et de premier. Et donc ce qui est à l'origine de toutes les déterminations. Et qu'est-ce qui est à l'origine de toutes les déterminations? Je dis qu'il y a une source, un principe, ce qu'on appelle l'ousia. Bon, je me pose ensuite la question, en quoi est l'être? Et je dis, cette interrogation n'a pas de signification, ce que nous avons vu tout à l'heure, ce qui est très important. Je me pose ensuite la question, d'où vient l'être? Et je dis, cette interrogation n'a pas de signification. C'est contradictoire in terminis, comme diraient les logiciens. J'aime mieux dire, ça n'a pas de signification. Ça revient au même, mais ça n'a pas de signification. C'est très important de saisir nous-mêmes, pas parce que je vous le dis, mais de le saisir vous-même, que lorsque je pose la question « En quoi est l'être ?», ça n'a pas de signification. « En quoi est une réalité qui est mue ?», ça a une signification. « En quoi le vivant de vie biologique ?», ça a une signification. Mais en quoi est l'être, ça n'a pas de signification. Parce que ça voudrait dire que l'être a un fondement qui n'est pas l'être. Vous voyez, une petite phrase d'Aristote très simple que saint Thomas a repris. L'être n'est pas dans un genre. Or, le genre se prend ex parte materiae. Donc, quand je dis l'être n'est pas dans un genre, ça veut dire que l'être n'a pas de matière. Et quand je dis que l'être n'a pas de matière comme principe propre, ça ne veut pas dire que la matière n'est pas quelque chose qui existe, mais qui existe en second lieu qui n'est jamais première. La matière, c'est ce à partir de quoi le mouvement commence. Et ce n'est pas ce à partir de quoi l'être est. Alors vous pouvez dire ça, que la matière, c'est ce à partir de quoi le mouvement commence. C'est vrai. C'est le point de départ de l'ordre génétique. Mais la matière n'est pas ce qui est le point de départ de ce qui est. Ce qui est au-delà de la matière. Ça, c'est très très important à saisir. C'est la seule manière pour nous de dépasser Averroès et Lénine. C'est intéressant à se le rappeler. Bon. Deuxièmement, quand je pose la question d'où l'être, je dis également, ça n'a pas de sens. D'où l'être ? Il faut bien distinguer cette interrogation du problème de la création. Le problème de la création n'est pas une recherche d'une analyse de ce qui est. Le problème de la création, c'est une relation entre deux réalités qui existent et qui essaient de saisir l'ordre qui existe entre ces deux réalités. C'est tout à fait autre chose comme problème. Il faut distinguer le problème des relations et le problème de l'analyse. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous analysez ce que vous êtes et puis vous voyez toutes vos relations. Bon, ça, vous faites très très facilement cette petite distinction et il faut la faire jusque dans l'ordre de l'être. Je peux analyser ce qui est. Alors ça, il faut un bistouri particulier, ça c'est évident. D'une finesse particulière pour analyser ce que c'est que l'être. Parce que c'est pas commode. Et je peux regarder les relations qui existent entre les étants et l'être premier. Donc l'interrogation d'où est l'être n'a pas de signification. Parce que l'être, par lui-même, n'a pas d'origine. Il est. Alors là, Parménide a saisi ça admirablement. C'est intéressant de voir ça. C'est contemporain à sa grande vue sur l'être. L'être ne peut pas être engendré. L'être est au-delà de la génésis. Parce que si l'être était dans la génération, nécessairement, il y aurait quelque chose antérieur à l'être qui ne serait pas l'être. Et donc l'être devrait venir du non-être. Et c'est pour ça que l'être ne peut pas venir du non-être. Et donc il n'y a pas l'interrogation d'où vient l'être n'a pas de sens. Alors, il reste l'interrogation en vue de quoi l'être. Donc vous voyez les deux grands axes de la métaphysique, les deux grands axes de la philosophie première, c'est... Qu'est-ce l'être et en vue de quoi ? Alors, en vue de quoi, comprenons bien ce que ça veut dire. Quand vous cherchez en vue de quoi, normalement, c'est la finalité. Mais la finalité, qu'est-ce que c'est ? La finalité, c'est le but. Ce au-delà de quoi, il n'y a rien, je m'arrête. Ce au-delà de quoi, je m'arrête. Je ne vais pas plus loin, je m'arrête là. L'œuvre, d'une certaine manière, est une fin. Je termine cette œuvre. Ça ne veut pas dire que j'en fais pas une autre après, que je peux très bien très me contenter de l'œuvre que j'ai faite et j'en refais une autre. Ça, c'est tout à fait différent. Mais l'œuvre est un terme. Donc la fin, télos, c'est un terme. Au-delà de quoi je ne peux pas aller. Mais un terme qui n'est pas n'importe quel terme. Parce qu'il peut y avoir une limite. Il faut bien distinguer. Télos et terras. Le grec dit ça admirablement. Le point de vue de la fin, et puis péras, la limite. Dans notre philosophie contemporaine, il faut bien le voir, très souvent, limite et détermination et fin sont confondus. Limite, détermination, fin. Ça, c'est à partir de Leibniz. Les trois ont été confondus. Alors, ça fait quelque chose qui devient très, très difficile. Parce que la limite, qu'est-ce que c'est ? La limite, elle vient de la matière. Je veux dire, elle vient du récipient. Elle vient de celui qui reçoit. Donc, celui qui reçoit, comme qui reçoit un autre. Donc la limite, c'est toujours quelque chose qui vient contracter, quelque chose qui est reçu, une forme reçue dans la matière et limitée par la matière. Elle est contractée par la matière. Et vous comprenez bien que la matière ne détermine pas, elle limite. La limite n'est pas une détermination, c'est tout à fait différent. On doit dépasser les limites, on ne dépasse pas les déterminations. La détermination, c'est quoi ? Ça devient de l'objet. L'objet ne limite jamais. L'objet détermine. L'objet spécifie. Le propre de l'objet, c'est de spécifier. Et la fin, qu'est-ce que c'est ? La fin, c'est bien une limite, d'une certaine manière. C'est bien une détermination, d'une certaine manière. Mais la fin, quelque chose d'autre. La fin, c'est le bien qui achève. C'est ce qui achève, ce qui montre comment une réalité est parfaitement elle-même, pleinement elle-même. Donc ce qui est parfaitement elle-même, ce qui est parfait au sens absolu, parfait d'une manière ultime. Je ne peux pas aller au-delà. Donc ce qui est parfaitement soi-même, ce qui est parfaitement achevé, c'est ça le point de vue de la fin. La fin amène cet achèvement, amène ce point de vue qui fait qu'une réalité est ultime et dernière. Alors vous comprenez, quand il s'agit de ce qui est en tant qu'être, ce qui est vu du point de vue de l'être, ce qui est vu du point de vue de l'être, bon, est-ce que l'être a-t-il une limite en lui-même ? L'être en lui-même n'a pas de limite. Pourquoi ? Parce que l'être n'est reçu dans rien. Ce n'est pas comme la forme. La forme n'est qu'une modalité de l'être, et donc elle est reçue, elle est relative à autre chose. L'être, il n'est reçu dans rien, en tant qu'il est. Vu comme être, il n'est reçu dans rien. Donc, pas de limite. Alors la tentation, c'est de dire l'être est illimité, il est infini. Alors la tentation, évidemment. Quand je dis qu'il n'y a pas de limite, je ne veux pas dire qu'il est infini. Je veux dire que la limite n'a rien à voir avec elle, avec l'être. C'est très différent. L'être, il implique ce qui est source des déterminations. Est-il objet ? Ah, ça c'est une très grave question. La fameuse parole de saint Thomas, vous savez bien. Primum cadit id intellectu es. Saint Thomas a l'air de dire que l'être, c'est l'objet par excellence. Alors les scolastiques se sont butés là-dessus en essayant de comprendre comment l'être pouvait être l'objet. Alors ils ont distingué l'objet spécificatif, donc l'objet qui détermine, et puis l'objet terminal, l'objet ultime, en disant alors l'être c'est l'objet ultime. C'est vrai, donc au fond, en réalité, l'être ne spécifie jamais. Ça, c'est très curieux. C'est ça, on essaiera de comprendre ça. Parce que ça, c'est intéressant. Alors, l'être comme objet, comme source de toutes les déterminations, c'est vous y a. Alors maintenant, je vais chercher avec vous, qu'est-ce que c'est que l'être dans son achèvement ? Vous comprenez que l'être dans son achèvement, le bien de l'être dans son achèvement, l'être en étant dans son état de perfection, dans son état ultime, ça ne peut pas être quelque chose qui est en dehors de l'être. Si je prends l'être au sens le plus profond qui soit, ce serait du non-être, non. Ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de l'être. Ce n'est pas du sur-être, comme dit le père de finance, n'est-ce pas, du surêtre. Alors qu'est-ce que c'est que du surêtre ? Est-ce que c'est encore de l'être ou pas de l'être ? Alors est-ce que c'est de l'être d'une manière très très... Non, c'est... Il faut trouver à l'intérieur de l'être ce qui fait l'achèvement de l'être. Qu'est-ce qui fait l'achèvement de l'être ? lettre en acte que nous avons essayé de comprendre. Je peux le dire puisque ça a été dit. Alors je vais le dire en attendant. Lettre en acte. Lettre en acte qui se distingue de lettre en puissance, qui par définition, lettre en puissance est un lettre en attente. Et donc ce n'est pas un être achevé. Exactement comme Lousia se distingue de la qualité. Parce que la qualité, c'est bien une détermination immédiate, mais ce n'est pas la source de toutes les déterminations. Donc il faut essayer de comprendre ce que c'est que l'être dans son achèvement, l'être parfait, ce que c'est que l'être en acte. Donc voyez la question qui se pose. Hein, c'est pour ça que je dis, c'est intéressant de se poser la question, en vue de quoi l'être, c'est la fin de l'être. Et qu'est-ce que c'est que la fin? C'est l'achèvement. Parce qu'autrement, on ne voit pas très bien l'interrogation. Vous vous butez parce qu'on a un petit schème. On a un petit schème de la finalité. Le petit schème de la finalité, c'est l'œuvre ou ce qui est au-delà de ce que nous avons en nous. C'est-à-dire un bien qu'on ne possède pas encore mais qu'on recherche. On reste dans l'ordre du désir. Alors on a ce petit schème. Alors on ne voit pas du tout qu'est-ce que ça peut être la fin de l'être. La fin de l'être, on dit quoi? C'est en dehors de l'être, c'est au-dessus de l'être. Attention. La fin, c'est l'achèvement d'un être. C'est son achèvement. C'est par où un être est parfait. Au-delà de quoi il ne peut pas aller. Alors là, je comprends comment je peux me poser la question, quel est l'achèvement de l'être? Qui est non pas en dehors de l'être, mais qui est à l'intérieur même de l'être. Comment découvrir? Et cette question est légitime. Pourquoi? Parce que mon expérience est toujours à partir d'un être qui devient. Si c'est un être qui devient, c'est un être qui se cherche. Si c'est un être qui se cherche, c'est un être qui est en devenir, et donc un être qui implique en lui une complexité. S'il est en devenir et qu'il est en recherche, par définition, il n'est pas parfaitement lui-même. S'il était parfaitement lui-même, il ne se chercherait pas. Il ferait le ronron du chant auprès du feu. Il est en tout à fait content de lui-même en disant « je me suis parfaitement satisfait ». Alors c'est la satisfaction parfaite de l'être qui est le ronron du chant auprès du feu. C'est vrai, quand on ronronne, c'est ça, non ? On ne cherche rien d'autre, on se repose. Vous voyez, c'est la détente, on se repose. Alors on n'a plus rien à chercher, on a tout en soi. On est parfaitement soi-même. Tandis que quand vous cherchez, ça prouve que vous n'êtes pas parfaitement vous-même. Vous sentez encore une espèce de besoin, de dépassement. Il y a quelque chose qui demande d'aller plus loin. C'est bien là où on saisit justement que l'être n'est pas parfaitement lui-même et qu'il y a quelque chose à découvrir. Alors on va essayer de voir maintenant ce problème en vue de quoi l'être. J'aime bien de revenir à l'interrogation dans toute sa pureté. Comment pouvons-nous saisir ce qui est, je peux dire, le bien de l'être? L'être parfaitement lui-même. Historiquement, une petite topique historique pour nous aider. Pour nous aider parce que c'est sûrement quelque chose de très difficile. La preuve, c'est que historiquement, vous voyez que c'est très vite fait. C'est très curieux. C'est très vite fait, cette topique. Quel est le premier qui s'est posé la question? On pourrait dire Platon. Platon a compris cette chose très étonnante, que le bien est au-delà de l'être. Mais ça revient aujourd'hui. Hein. Dieu sans l'être, hein, c'est bien ça, c'est le bien. Mais c'est ou le bien ou la matière, hein, c'est l'un ou l'autre. Le dépassement de l'être, c'est le bien. Ça, c'est du Platon. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau de dire ça. Pour Platon, le bien est au-delà de l'être. L'être, c'est l'ousia. Et donc, le bien est au-delà. Le bien est au-delà de l'ousia. Donc, le bien, c'est l'au-delà de l'être. Si Dieu est le bien, il est l'au-delà de l'être. Il y a le bien et l'un. Le bien et l'un sont au-delà de l'être. Alors, dans ces conditions, je comprends très bien que, en vue de quoi est l'être? Ah, c'est très simple, c'est le bien. Et le bien est au-delà. Alors mon petit chêne que je possède en moi, quand je recherche quel est mon bien, je recherche quelque chose qui est au-delà de moi. Donc je recherche quelque chose qui est au-delà de l'être. En vue de quoi l'être? Ah mais c'est le bien. Et le bien n'est pas l'être, c'est bien évident. Alors dans ces conditions, l'être est essentiellement imparfait. Dans ces conditions, et on comprend très bien, parce que pour Platon, l'être égale l'intelligibilité. Or, l'intelligibilité de l'être, ce n'est pas ce qui a d'ultime et dernier, parce que l'intelligibilité, c'est une intentionnalité. Au fond, l'être est de l'ordre de l'intentionnalité, parce qu'il est de l'ordre de l'intentionnalité, il est multiple. L'être n'est pas un, et c'est pour ça qu'il y a un au-delà de l'être qui est là. Et cet au-delà de l'être qui est un est le bien. Et c'est pour ça que le bien et l'un sont au-delà de l'être. Vous voyez le petit chêne imaginatif qui demeure, hein, et qui fait comprendre très bien cette position. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant de voir que, de fait, là, on est en présence d'une première manière de concevoir l'être. Platon a distingué l'être de la génésis. La génésis, donc le mouvement, le devenir, n'est pas l'être. Il distingue la génésis de l'être et il distingue l'être du bien. Et l'être est le métaxu, l'intermédiaire par où j'atteins le bien. Puisque l'être est au niveau de toute intentionnalité, au niveau de toutes les formes idéales. L'être est au niveau de toutes les formes idéales. Il est au niveau de l'ousia. Et tout est, le bien est au-delà. Et là, le bien et l'un sont au-delà des formes idéales, sont au-delà de la multiplicité. Donc, c'est très intéressant de saisir ce premier chêne, hein, un chêne très très beau, très intéressant. Platon donne des chênes merveilleux, tout ça. C'est très étonnant, ça, de voir ça. Le devenir, l'être, l'ousia, égale l'ousia, égale le domaine de l'intelligibilité, égale, comme dira plus tard un néoplatonicien, égale le nous. Vous restez dans l'ordre de l'être. Et puis, le bien est là, alors là, c'est Dieu. Dieu est donc sans être. Comme nous dirions, Dieu est sans devenir, nous disons, Dieu est sans l'être. Mais c'est du platonisme, on n'a rien inventé. Il ne faut pas dire que c'est une invention, mais non, c'est du platonisme, tout simplement. Platon dit ça textuellement. Il suffit de le reprendre, tout simplement. Et il suffit d'identifier l'être avec l'intentionnalité, identifier l'être avec les formes idéales pour arriver nécessairement à ce dépassement de l'être, le bien et mal. Que dit Aristote au premier moment de la topique? Premier moment de la topique, la fin de l'être est au-delà de l'être. Ça, c'est tout à fait le chêne très simple que nous avons selon notre conditionnement humain. Selon notre conditionnement humain, la fin du travail, c'est l'œuvre. L'œuvre est au-delà du travail. La fin de notre recherche, c'est découvrir notre bonheur. Le bonheur est au-delà de la recherche. Alors, le devenir est dans la recherche. Il y a un au-delà, et cet au-delà, c'est justement ce qu'on appelle le temps. Que dit Aristote en face de ça? Aristote va critiquer cette conception de l'être en disant que l'être ne sont pas les formes idéales parce que les formes idéales n'existent pas et que l'être, il est dans la réalité existante. Il est dans la réalité existante. Les réalités que je vois existent en acte. Le domaine de l'intentionnalité, c'est le domaine de l'intelligence qui pense. Quand l'intelligence pense, elle porte en elle-même ce point de vue de ses formes idéales et l'intentionnalité, mais ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la réalité qui existe en acte. Au fond, pour Aristote, la fameuse découverte d'Aristote, que le tout oti est antérieur au ti esti. C'est-à-dire, la substance première est substance au sens absolu, tandis que la substance seconde est substance seconde. donc tout entière relative à l'autre. Or, le TST, c'est au niveau des formes idéales, tandis que TOTI est au-delà, c'est la réalité existante. Donc Aristote va tout de suite découvrir avec les prédicaments, et je dis bien avec les prédicaments, il découvre tout de suite avec les prédicaments que je ne peux pas garder cette manière, parce que ça ne correspond pas à la réalité. La réalité touche des réalités existantes qui existent en acte. Et ceci est premier à la nature des réalités. Il y a quelque chose de plus fondamental. C'est l'être qui existe. Tandis qu'en dans la position de Platon, alors évidemment, puisque l'être est pris au niveau de la conventionnalité et au niveau des formes idéales, il n'est pas l'absolu. L'absolu peut être que le bien, donc un dépassement. Tandis qu'au contraire, l'être existant, le Tōti, c'est le bien. Le bien est toujours une réalité qui existe. Le bien n'est pas extrinsèque à ce qui existe en acte. Le bien n'est pas extrinsèque à la substance première. Le bien, c'est toujours la réalité qui existe. Il n'y a pas de bien au niveau idéal. Platon avait raison. Il n'y a pas de bien au niveau idéal. Mais s'il n'y a pas de bien au niveau idéal, c'est donc dans la réalité qui existe. C'est une réalité existante. Cette réalité existante n'est pas simplement limitée. Enfin, voilà l'erreur de Platon. C'est que pour Platon, le tōti est toujours limité. Alors que non, ce qui existe n'est pas nécessairement limité. Toutes les réalités que je vois impliquent une limite, mais cette limite ne provient pas de leur exister en acte, ça provient qu'elles sont telle nature qui existe. Et c'est parce qu'il y a cette telle nature qui existe, alors ils ont une existence limitée. Mais le fait, la réalité qui existe en acte, n'implique pas en soi l'unité. Donc, on ne peut pas dire qu'au-delà de l'exister en acte, il y a un bien absolu, puisque le bien que je constate implique toujours quelque chose qui existe en acte. Bon, c'est la première remarque d'Aristote. Hein. Ça, c'est intéressant, parce que c'est revenir au jugement d'existence. Au fond, c'est le jugement d'existence qui est la clé. Aristote ne le dit pas explicitement. Mais si on regarde attentivement, on voit que c'est bien ce jugement d'existence qui est la clé. Puisque le jugement d'existence le met en face du tōti, le fait d'exister. Mais ceci explique pourquoi Aristote, en philosophie humaine, dit que le fait, donc le fait d'exister, est principe. Ça, c'est très important. Le fait d'exister est principe. Je n'ai pas le droit de ne pas tenir compte d'une réalité qui existe. Je n'ai pas le droit de la mettre entre parenthèses. Le philosophe n'a pas le droit de faire ça. Donc je dois regarder une réalité qui existe. Toute réalité qui existe, par le fait même qu'elle existe, elle s'impose. Et elle s'impose en acte. Et si elle s'impose en acte, elle a en elle quelque chose d'absolu. J'essaierai de comprendre ce quelque chose d'absolu en découvrant ce qu'il y a de principe et de premier en elle. Donc, la première réaction d'Aristote, c'est de montrer que les formes idéales n'existent pas et qu'il faut revenir au jugement d'existence. Si je me remets au jugement d'existence, je vois que ce qui est le tōi homme peut être considéré du point de vue de l'être. Et j'ai alors ce qu'on appelle la philosophie première. Et dans la philosophie première, Aristote étudie l'ousia en premier lieu, dans les livres Zeta. J'espère que vous l'avez tous lu. Et il va étudier l'être en acte dans le livre Theta. Heidegger l'acceptait à son séminaire que les étudiants qui avaient lu en grec le livre Theta d'Aristote, parce qu'ils jugeaient que c'était le livre le plus important de toute la philosophie. intéressant, c'est un jugement comme ça porté par un jeune, que c'était le livre Theta, le livre le plus important de toute la philosophie. Parce que c'était dans ce livre Theta, ce que nous allons voir rapidement, c'était dans ce livre Theta qu'Aristote essayait de comprendre philosophiquement, en philosophie première, qu'est-ce que c'est que l'être en acte. Oui. Alors, c'est au fond là où Aristote va montrer qu'à la différence de Platon, il va comprendre le bien par rapport à l'être en acte et non pas le bien comme au-delà de l'être. Oui, alors c'est très actuel puisque vous ne pouvez pas répondre à ce livre Dieu sans l'être sans comprendre ça. Ce problème est exactement le même. Est-ce que je peux dire le bien sans l'être ou est-ce que je dois dire le bien c'est l'être en acte? Alors là, vous avez deux positions philosophiques totalement différentes. La position platonicienne, la position aristotélicienne. Alors, il faut y réfléchir, parce que c'est ça qu'on doit arriver. On doit essayer de comprendre ce que ça veut dire, d'abord. Hein. Si je dis le bien sans l'être, c'est-à-dire le bien au-delà de l'être, un au-delà tel, parce que moi aussi, je dirais que le bien est au-delà de l'être, mais sous un certain aspect. Sous un certain aspect, on le verra du reste. La position de Saint-Thomas qui va montrer comment le bien est un au-delà de l'être, mais sous un certain aspect. Et sous un autre aspect, le bien n'est pas au-delà de l'être, sous un autre aspect. Alors c'est ça où il faut bien distinguer, et c'est pas commode. Hein. Et je vous dis, on est là à la crête. Heidegger hein. Considère que ce livre, Theta, c'est le sommet de la philosophie. Il le dit avec beaucoup de respect. Il le dit, au fond, l'entelechia d'Aristote, c'est le sommet de toute la philosophie grecque. Cette découverte-là, c'est le sommet de toute la philosophie. Alors, essayons de comprendre ce livre, Theta d'Aristote. Je ne veux pas en faire une analyse, c'est-à-dire je ne veux pas en faire un séminaire avec vous, ce serait trop long, mais il faut au moins dans sa vie philosophique, avoir lu, je ne réclame pas en grec, si c'est possible en grec, le livre Theta d'Aristote. Il faut au moins l'avoir lu. Et d'avoir essayé de comprendre. Hein, parce qu'une première lecture, vous n'y comprendrez rien. Seconde lecture, ce sera un peu plus intelligible. Une troisième, un peu plus. Alors, il faut bien comprendre. Le livre Theta d'Aristote commence par la recherche sur la dynamis. La dynamis traduisait la puissance. Intéressant de voir que ce début, les cinq premiers chapitres du livre Theta, c'est sur la dynamis. Pourquoi ? Aristote est toujours face à Platon, ne l'oublions pas. Comme nous sommes toujours face à Hegel. N'est-ce pas ? Alors il faut toujours penser ça. Il faut toujours bien saisir qu'il est face à Platon. Platon a été son maître pendant 20 ans. Or, pour Platon, la dynamis est au-delà de l'être. C'est très intéressant de voir ça. Il y a l'ousia, la dynamis et le bien. Le bien en soi. Ou le beau en soi. C'est par la dynamis d'une certaine manière que va se faire ce passage. Pour Platon, c'est implicite, mais je peux le dire, étant donné que Plotin, disciple de Platon, le dira explicitement. Alors, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant de voir ça. Il le dira d'une autre manière que je le dis, parce qu'il le prendra lui par rapport au bien et à l'un, en montrant que la dynamis fait le passage entre les deux. Alors, si la dynamis fait le passage entre le bien et l'un, a fortiori entre l'être et le bien. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la dynamis pour Platon ? Pour Platon, la puissance d'une réalité est toujours plus que ce qu'est cette réalité. Ça a l'air du gros bon sens. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de juste. Ce que vous pouvez, ce qui est la capacité de votre action, est plus que ce que vous êtes. pas, le fameux adage qu'on dira tout le temps, operatio sequitur esse. L'opération suit l'essai, suit l'être. Vous comprenez ? Alors, l'opération est quelque chose qui vient de l'être, mais qui vient achever l'être. Si ça vient achever l'être, c'est donc quelque chose de plus. C'est du surêtre. L'action est du surêtre. Vous avez plus de valeur si vous faites quelque chose que si vous ne faites rien. En disant, moi je me contente d'exister. J'existe et c'est suffisant et c'est déjà pas commode. C'est pas, alors j'existe. Et j'essaie de survivre à mon exister. Alors, vous direz donc que l'opération est quelque chose de plus. Si l'opération est quelque chose de plus, donc la dynamique c'est quelque chose de plus. Au niveau psychologique, si je me place au niveau psychologique, c'est très vrai que la dounamis apparaît comme plus que l'ousia. Parce que la dounamis vient s'ajouter à l'ousia. Si elle vient s'ajouter à l'ousia, elle est donc quelque chose de plus. Alors pour Platon, ce qu'il y a de plus parfait dans l'être, c'est la dounamis. C'est la capacité d'opération d'un être qui nous donne la plénitude de l'être. Un être est plus grâce à sa dounamis que ce qu'il est en lui-même. Voyez la petite confusion au niveau métaphysique entre la substance et l'opération. C'est très vrai qu'au niveau psychologique, vous apparaissez du surêtre dans votre opération. C'est quand vous êtes en pleine activité, en pleine effervescence d'activité, que vous avez l'impression d'être parfaitement vous-même. Quand vous êtes parfaitement développé, vous arrivez à faire quelque chose de merveilleux. Alors vous êtes vraiment dans un surêtre, dans un état de grâce qui est le surêtre, pour employer le langage des artistes, n'est-ce pas ? Dans un état de grâce, je suis dans un état de grâce. Aujourd'hui c'était merveilleux, tout devient limpide, merveilleux, extraordinaire, j'ai tout compris. J'avais rien compris avant, mais maintenant ça y est. L'état de grâce qui nous fait comprendre du dedans des tas de choses. Un surêtre. Alors ça, c'est votre opération. Votre opération a l'air de surpasser ce que vous êtes. Et donc, la dounamis, qui est à l'origine de l'opération, est au-delà de ce que vous êtes. Au niveau psychologique, conscience psychologique, c'est très vrai. Au niveau métaphysique, non. Pourquoi ? Parce qu'au niveau métaphysique, je comprends que la dounamis vient s'ajouter. Si la dounamis vient s'ajouter, elle est donc de l'ordre de la qualité. Elle est donc quelque chose de second du point de vue de l'être. Tandis que l'ousia est première. L'ousia est fondamentale et la qualité est relative. Ah. Et donc, je dois donc dire au niveau proprement métaphysique que la dounamis, c'est très vrai, s'ajoute, mais s'ajoute comme une qualité qui présuppose un sujet radical, qui présuppose une substance radicale, qui se sert de cette qualité, qui permet grâce à cette qualité de pouvoir opérer. Mais l'ousia est première. Elle est fondamentale, sans elle, la qualité n'existerait pas. Donc, au niveau métaphysique, je ne peux pas dire que l'ousia est un surêtre. Ça n'a pas de sens. Je dois donc essayer de comprendre. Et tout point de vue d'Aristote, c'est ça. C'est de montrer que la dounamis, c'est une qualité. Donc, elle n'est pas au-delà de l'ousia. Et je ne peux pas donc considérer que le sommet de l'être, ce soit la dounamis. Parce que chez Platon, le sommet de l'être, c'est la dounamis. Pour Aristote, l'achèvement de l'être n'est pas la dounamis. La dounamis est une qualité qui vient s'ajouter. Et alors, Aristote le fait de multiples manières, ça, en montrant toutes les possibilités d'une dounamis. Il y a des puissances innées, il y a des puissances non innées, il y a des puissances qui viennent s'ajouter à la puissance, et ainsi de suite. Alors vous avez toute la diversité des dounamis qui sont là pour nous faire comprendre que la dounamis n'est qu'une qualité de l'ousia, Donc, elle ne peut jamais être quelque chose de premier. Nous continuerons ce soir, pour ceux qui ont beaucoup de courage. C'est ici, hein, c'est la même salle.